Alors bonjour à chacun et à chacune. Merci pour le temps de louange qu'on a passé tout à l'heure, pour ce témoignage aussi, pour ce temps d'intercession aussi par rapport à ceux qui sont persécutés. Il y a pas mal d'éléments qu'on a déjà vécu ensemble dans ce culte qui se retrouvent aussi dans le message que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Alors nous sommes toujours dans la série, aujourd'hui c'est le dernier message dans cette série, sur la construction. Donc le thème de cette série de messages sur la construction, en fait, c'est construire l'Église, un témoignage dans la région. Et on a choisi de parcourir en fait ces deux livres, Esdras et Néhémie, pour montrer que au travers de la construction qui est en train de se faire par rapport au bâtiment qui est en train d'être construit maintenant, mais aussi par rapport à l'Église composée par tous ceux qui croient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tous ceux qui suivent Jésus-Christ, il y a un chemin à faire. Il y a une croissance aussi à vivre. Et au travers de Néhémie, d'Esdras et Néhémie, nous voyons vraiment comment ces deux hommes de Dieu ont travaillé avec Dieu pour bâtir. Pour bâtir tout d'abord le temple, donc avec la démarche d'Esdras, et puis bâtir aussi la muraille avec la démarche de Néhémie. Donc ce sont des bâtisseurs avec Dieu. Et chacun d'entre nous peut bâtir avec Dieu, par rapport aussi au projet que Dieu nous confie. En tant qu'Église, il y a ce projet de construction, et aussi ce projet aussi de, quelque part, de croissance de la communauté, mais chacun d'entre nous aussi concerné parce que Dieu veut travailler avec chacun de nous tous. Donc il y a eu des messages sur, tout d'abord, deux messages basé sur le livre d'Esdras. Le premier message, c'est sur le début de la restauration du temple où on voit ce processus inversé. Logiquement, quand on construit, quand on veut se protéger, on construit d'abord la muraille, après le temple. Tandis que là, c'est d'abord le temple et seulement après la muraille. Et là, on voit aussi le fait que on donne la priorité à Dieu. D'abord, on se met sous la protection de Dieu avant de démarrer une construction. Et puis après, il y a eu une triple opposition par rapport à cette reconstruction du temple. Mais malgré tout, Esdras, avec tout le peuple, ont pu accomplir la reconstruction du temple. Et là, en fait, on a souligné dans le deuxième point, dans la deuxième partie d'Esdras, le fait de combattre dans la confiance avec Dieu, dans la confiance en Dieu. Et puis le dernier message, c'est sur Néhémie, où j'ai parlé du début de la reconstruction de la muraille. Et là, on a insisté en fait sur le fait de témoigner de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu manifeste dans l'Église. Et j'ai relevé deux points en particulier. Tout d'abord, le fait que l'Église n'est pas un musée pour des gens sans problème, mais le lieu où les brèches sont reconnues et restaurées. Et les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure m'ont interpellé dans ce sens où on peut partager le fait qu'on a eu tel ou tel problème, mais on peut aussi témoigner de l'action de Dieu dans notre vie. Il y a cette liberté de dire, voilà, le Seigneur continue à agir dans ma vie. Et la deuxième définition que j'ai donnée aussi par rapport à l'Église la dernière fois, c'est le fait que l'Église n'est pas un lieu de spectacle où il y a une partie d'acteurs et puis une partie de spectateurs. L'Église, c'est le lieu où tout le monde est acteur, en fait. Parce que tout le monde a sa place, selon les dons que Dieu lui accorde, et avec aussi l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur. L'Esprit distribue des dons parmi nous, et si nous sommes aujourd'hui 90 personnes ou 100 personnes, il y a au moins 100 dons spirituels qui sont accordés à l'Église. Et en fait, l'Église est aussi là pour que ces dons-là soient mobilisés pour la croissance, pour l'avancement du règne de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de ce deuxième texte dans Néhémie, en fait, qui montre les obstacles rencontrés par Néhémie dans la reconstruction du temple. Et j'ai à cœur de souligner en particulier, en fait, ce mot-là, l'espérance. L'espérance. Nous avons parlé des églises qui sont persécutées tout à l'heure, Burkina Faso. C'est vrai que là, il y a vraiment une croissance au niveau de l'insécurité là-bas, par rapport aux attaques contre les chrétiens, contre les églises, et un peu partout quand même dans le monde, pas seulement en Afrique, partout en Chine, partout en Asie ou même en Amérique latine. Mais ne pensons pas que ici en Europe ou en Occident, on n'est pas touché par cette réalité. L'Église se trouve dans un contexte d'hostilité. Quel que soit le lieu où elle se trouve, pourquoi ? Parce que l'Église, c'est aussi quelque part un signe, un symbole du royaume de Dieu, parce que là où Dieu règne, l'Église, c'est un lieu, hein, c'est le royaume de Dieu, c'est celui que Jésus va établir, mais là où Jésus règne, c'est le royaume de Dieu. Et nous reconnaissons dans l'Église que Jésus règne. Et dès qu'il y a ce mot, Jésus, il y a aussi un autre royaume qui se met en marche contre l'œuvre de ce royaume-là, contre l'extension de ce royaume de Dieu. Et ce royaume, c'est le royaume des ténèbres. Le diable, tous les démons qui agissent pour détruire ce royaume. Et avec tous les alliés, des gens utilisés aussi par ses ennemis spirituels pour détruire l'Église. Et nous sommes aussi dans ce contexte-là, même ici en Suisse. C'est vrai qu'on ne subit pas de persécution physique. Mais il y a certaines formes de persécution. Je peux dire une persécution morale. Il devient de plus en plus difficile de dire qu'on est chrétien sans se faire taxer de prosélyte, ou bien on est dans un processus où toutes les valeurs chrétiennes sont rejetées. Et on n'aime même pas le terme religion maintenant, parce que quand on pense à la religion, on pense au christianisme, et le christianisme, c'est une religion qu'on rejette. C'est un has-been, c'est du passé, c'est du temps révolu. C'est quoi ces gens qui croient encore en Christ, ces gens qui croient encore à l'Église, c'est du temps, c'est révolu. Donc nous sommes dans cette situation aussi, il y a une persécution morale, mais il y a parfois une dimension physique aussi dans cette persécution. Et au travers de l'exemple de Néhémie, j'aimerais vraiment qu'on soit encouragé, qu'on puisse demeurer ferme dans cette espérance que nous avons pour que nous puissions continuer à agir pour l'avancement du règne de Dieu. Parce que avec cet établissement, cette restauration de la muraille, il y a aussi au bout, au final, l'établissement du royaume de Dieu. Mais en attendant ce royaume de Dieu, nous sommes appelés à agir. Et avec cette espérance, il y a aussi un autre mot que je rajoute, c'est le mot croissance. C'est en demeurant dans l'espérance que nous grandissons, que nous pouvons avancer malgré les obstacles que nous rencontrons. Il y a aussi un passage qui a été partagé tout à l'heure avec Éphésiens 2. En lui, en Christ, toute construction s'élève. Il y a aussi là une construction, il y a aussi là une croissance spirituelle à vivre. Alors, quels sont les obstacles que nous pouvons rencontrer dans cette croissance ou face à cette croissance spirituelle? Les obstacles que nous rencontrons quand nous voulons agir pour l'avancement du règne de Dieu, parce que nous sommes appelés à répondre et à faire avancer justement le royaume de Dieu. Quels sont les obstacles? Nous voyons aussi ces obstacles au travers des obstacles dressés par les ennemis de Néhémie. Donc, ce que Néhémie a à cœur, justement, c'est de restaurer cette muraille. Elle est détruite, elle était détruite. Et c'était vraiment important pour Néhémie de restaurer cette muraille. Donc là, en fait, on voit la localisation probable des murs extérieurs de la ville de Jérusalem. C'était vraiment important de reconstruire cette muraille parce que si la muraille était, il y avait des brèches partout, les portes étaient aussi brûlées, les battants étaient détruits. Donc, en fait, avec cette situation de destruction en fait de la muraille, Jérusalem était exposée aux attaques de l'ennemi. Donc, Jérusalem se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Et Jérusalem était exposée au vol, au pillage, et ça a empêché même le repeuplement de Jérusalem, parce que les gens ne venaient pas, il n'y avait pas de sécurité, donc les gens ne venaient pas. Donc, et comme c'était aussi le contexte des Juifs qui retournaient dans ce pays à la suite de l'exil en Babylone, donc Juda et Benjamin, et là, en fait, c'était pour accompagner aussi ce repeuplement de Jérusalem. Et puis, cette muraille détruite, en fait, représentait aussi pour Néhémie une situation humiliante, pour Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la ville où il y a le temple qui venait d'être reconstruit. Et le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu. Et comment c'était que le temple est là, mais la muraille tout autour est détruite. Donc, c'est un signe de la présence de Dieu. Et un dernier point pour Néhémie, c'était vraiment important de voir qu'il désire honorer Dieu au travers de la reconstruction de la muraille. Donc, il y a ce désir de l'avancement de l'œuvre de Dieu, de l'avancement du projet de Dieu dans ce monde. Et c'est pour cela que j'aimerais parler justement de l'avancement du règne de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. Et dans cet avancement-là, nous sommes appelés à aussi agir, à intervenir. Et il y a une intervention, il y a un démarrage de cette reconstruction au chapitre 3. Chacun a son secteur. Le travail se fait simultanément sur la totalité de la muraille. Il n'y a pas de concentration à un endroit. C'est vraiment un travail coordonné et selon un plan d'ensemble. C'est un travail dans une unité et en même temps dans la diversité. Mais quand le travail a commencé, il y a eu des oppositions. C'est étonnant. Avant, il n'y avait pas d'opposition parce que on laissait comme ça la situation de Jérusalem, de la muraille. Mais là, bon, par rapport au temple, déjà, il n'y avait pas eu de reconstruction, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'on a touché à la reconstruction, l'opposition apparaît. Et pareil par rapport à la muraille, la reconstruction de la muraille a démarré. Et en fait, à la suite de ça, il y a eu des oppositions. Il y a eu des obstacles qui ont été dressés par des ennemis du peuple. Et en fait, ces obstacles venaient de l'extérieur. Et par rapport à cet obstacle, il y a tout d'abord une première stratégie utilisée par les ennemis. La première stratégie d'attaque de l'ennemi, voilà, la reconstruction démarre, les ennemis ont vu, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué, c'est tout le peuple qui est visé par cette première stratégie. Il y a eu tout d'abord la colère de ses ennemis. Et puis, il y a aussi le mépris et la moquerie. Il y a aussi la coalition des forces. Ils se sont mis ensemble pour contrer, pour attaquer Jérusalem. Et puis, il y a eu des projets de violence. Et parmi ces moyens utilisés par l'ennemi pour viser le peuple, il se peut que qu'on expérimente aussi quelques-unes de ces attaques-là, le mépris et la moquerie. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la difficulté de montrer qu'on est chrétien, il y a aussi souvent du mépris contre les chrétiens. Il y a aussi la moquerie. Et là, ce sont des stratégies utilisées par l'ennemi aussi pour nous décourager, pour empêcher notre croissance spirituelle. Mais au travers de cette croissance, au travers de ces obstacles, en fait, Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut enfin encore faire ancrer en nous cette espérance qui nous motive. Et Dieu veut aussi nous impliquer dans son projet pour l'établissement de son royaume. Donc il y a eu ces différents moyens utilisés par l'ennemi. Et ce que j'aimerais montrer maintenant, c'est comment Néhémie, comment le peuple a répondu par rapport à ces attaques-là. Il y a tout d'abord le domaine spirituel. Souvenez-vous que toute attaque vient d'abord du monde spirituel. L'ennemi attaque tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Il y a une opposition entre deux royaumes, d'où l'importance de la prière. L'importance de la prière. Et on voit cette réaction tout d'abord dans le chapitre Néhémie, chapitre 3, versets 36 à 37. Enfin, le début de verset 36. Oui, je vais déjà lire le verset 33 et jusqu'au verset 34 pour montrer en fait cette attaque qui a été utilisée et la réaction de Néhémie. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire ? S'imaginerait-ils qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calciné. Et dans la première réaction de Néhémie, c'est « Écoute, ô notre Dieu, on nous méprise, on se réfère à Dieu. » Et c'est étonnant, enfin c'est pas étonnant, mais disons c'est encourageant de voir que partout, enfin je ne veux pas vous lire tout le passage, mais en relisant ce texte-là, je vois plusieurs fois des courtes prières de Néhémie, ce que j'appellerais des prières « flash ». Il passe pas, bien sûr, il y a un temps de prière long aussi hein, dans Néhémie, comme dans Esdras aussi, hein, il y a un chapitre qui parle de vraiment un long moment de prière. Mais là, ce sont des prières flash, des courtes phrases adressées à Dieu. Et quand nous sommes attaqués comme ça, on a aussi besoin de dire des courtes flash, en fait, des prières flash comme ça, dire « Seigneur, aide-moi, Seigneur, conduis-moi, aide-moi, sauve-moi, Seigneur, glorifie ton nom », enfin, des petits mots comme ça, sans forcément passer, sans entendre le temps de prière qu'on pourrait aussi consacrer à la fin de la journée ou au début de la journée. Des prières flash. Et c'est la réaction de Néhémie. Donc, sur le plan spirituel, il y a cette prière-là. Il y a aussi la confiance en Dieu qui est affirmée. Donc, on voit dans chapitre 4, verset 14, c'est dit « Rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du cor et notre Dieu combattra pour vous. » Il sait de quel côté il est. Il est du côté de Dieu. Et c'est Dieu qui combat pour eux. Mais il y a une confiance qui est là. Si nous sommes conscients que nous sommes du côté du royaume de Dieu, Dieu combattra pour nous. Dieu agira pour nous. Et nous pourrons avancer, quels que soient les obstacles dressés par l'ennemi dans notre vie spirituelle, pour nous empêcher de grandir spirituellement, ou même pour nous empêcher d'avancer, d'agir pour que le royaume de Dieu avance. Donc ces deux éléments-là, par la prière, par la confiance en Dieu, nous pouvons déjà avancer. Mais il y a aussi des mesures adéquates. Il y a le côté peut-être pratique sans opposer spirituel et pratique, mais ces mesures adéquates qui ont été aussi prises par Néhémie et tout le peuple. Ils ont fait la garde de jour et de nuit. Ils ont travaillé avec, justement, travailler avec une arme à la main, donc ceux qui travaillent et ceux qui travaillent, donc il y a une main qui travaille et puis l'autre main il y a une épée, et puis il y a ceux qui font la garde de nuit, ceux qui font la garde de jour, et puis il y a ceux qui travaillent et ceux qui gardent aussi pendant la journée. Donc il y a vraiment toute une mesure qui ont été développées pour permettre vraiment à ce que le peuple soit mobilisé. On a aussi demandé aux gens de rester, dormir à Jérusalem pour ne pas se disperser. Comme ça, ça facilite aussi la garde. Et certains même, enfin, ils ont même osé, ils ont même pas quitté leurs vêtements parce qu'ils étaient tellement en veille comme ça. Ils sont allés vraiment jusqu'à l'incommodité et jusqu'à la souffrance. Il y a un élément que j'aimerais relever au travers de cette attitude du peuple, c'est d'agir comme si tout dépend de nous, en sachant que tout dépend de Dieu. Par cette réaction spirituelle, ils montrent qu'ils dépendent de Dieu, mais par ces mesures pratiques, ils savent que tout dépend d'eux aussi. Ils ont payé même de leur propre personne. Et ils sont allés jusqu'au bout. C'est ce que j'ai aussi à cœur pour notre Église dans ce projet de construction de bâtiments, mais aussi dans le projet de construction du corps de Christ, de cette construction de cet édifice constitué par tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Reconstruire la muraille pour montrer aussi que on veut agir pour que le royaume de Dieu avance dans cette région. Il y a aussi un autre obstacle. Mais cet obstacle vient toujours de l'extérieur. Mais comme ils ont échoué à la première stratégie, ils utilisent une deuxième stratégie. En fait, dans cette deuxième stratégie, c'est la tête qui est visée. c'est Néhémie qui est visé. Bien sûr, en pensant à Néhémie, je pense à tous les responsables de l'Église. Je pense aux anciens, je pense aux membres de tout le comité de direction de l'Église. Je pense à tous ceux qui sont responsables d'un secteur, mais aussi à tous ceux qui sont responsables d'activités. Il y a une position de leader. Mais j'étends encore cette position-là. Je pense à tous ceux qui ont reçu une mission de la part de Dieu pour l'avancement de son règne. Donc ça nous concerne tous. Donc quand je pense à Néhémie qui est visé, nous qui voulons nous lever pour l'avancement du règne de Dieu, avec la mission que Dieu nous confie, nous sommes aussi visés. Et dans cette deuxième stratégie, il y a ces différents éléments utilisés par l'ennemi. Tout d'abord, attirer Néhémie à l'extérieur de Jérusalem. Il est dit dans chapitre 6, les quatre premiers versets. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et le reste des deux ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il ne restait plus de brèche, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les bâtons à cette époque. Donc vous voyez, ça continue à avancer. Ils sont déjà un peu plus loin. La première stratégie a échoué et comme le travail avance, on utilise une deuxième stratégie. Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messages pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À quatre reprises, ils me furent transmettre la même proposition et je leur retournais la même réponse. Donc, Néhémie, en train de faire son travail, on veut l'amener en dehors de Jérusalem. L'objectif, c'est pour faire arrêter la construction, faire abandonner la construction, parce que le temps qu'il passe au travail, enfin, dans cette rencontre, malgré le piège, hein, allant consultant ensemble, discutant, passons ensemble, les choses, comment faire, comment réagir. C'est ça, un petit peu en arrière-plan. Donc, c'est pour tromper, en fait, Néhémie. Mais en fait, l'objectif derrière, c'est pour faire arrêter le travail. Et ce qui m'est venu aussi en réfléchissant à cette stratégie utilisée de faire sortir, de faire abandonner Néhémie du travail dans lequel il était impliqué, c'est la distraction. Détourner l'attention. Distraire, c'est aussi détourner l'attention. Si l'attention était sur la construction, là, on va aller à l'extérieur de Jérusalem pour que l'attention soit détournée. Il y a plusieurs distractions que l'ennemi utilise pour détourner les chrétiens de la priorité que le Seigneur a prévue dans leur vie. Je peux aussi vous parler des difficultés que j'ai. La distraction par l'écran. Des fois, je me dis, oh, je vais d'abord faire ce travail, après je vais prier. Très très souvent, peut-être à 90% du temps, je ne prie pas après. Parce que quand on est pris par quelque chose, voilà, on pense plus à ce qui est essentiel après. Au lieu de passer peut-être à une demi-heure, ce qui était prévu au départ, pour moi, en tout cas, je passe peut-être 2 heures sans me rendre compte. Alors là, je fais pas de jeu, hein, je fais du travail par rapport à l'enseignement que je donne. Mais le problème, c'est que j'ai prévu de passer du temps avec le Seigneur, lire un texte biblique pour moi, pas pour préparer pour les étudiants. je passe à côté de ce temps-là et quelque part, je manque de ressourcement. Mais il y a plusieurs distractions que l'ennemi utilise, qui détournent notre attention. Et à partir du moment où on se dit, « Ah, c'est quoi là, à côté ?»« Ah oui, on s'éloigne. » Et puis voilà, on quitte. On change de priorité. Donc, la distraction, quelque part... Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, la distraction. On en a besoin pour être ressourcé. Hein. Je ne suis pas en train de dénoncer ça. Mais, discernons les choses, faisons attention pour que la distraction ne nous détourne pas du projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il y a une deuxième stratégie utilisée. C'est le fait de... C'est une fausse accusation. Et je vais lire ce texte dans chapitre 6, verset 5, à partir du verset 5. Donc, Néhémie n'est pas sorti. Donc, il y a un échec par rapport à ça. Alors, une cinquième fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit... Le bruit se répand parmi le peuple des régions environnantes que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir le roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Une fausse accusation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit ici d'une lettre ouverte. Normalement, une lettre comme ça est cachetée, c'est-à-dire que il y a un cachet, on ne peut pas ouvrir cette lettre. Quand il y a un message, une lettre qu'on donne, comme ça, il y a un sceau, c'est caché, on ne peut pas ouvrir comme ça. Et en fait, en donnant cette lettre, qui est une lettre ouverte, chaque messager peut lire ce qui est écrit. Donc, quelqu'un de voilà, c'est un meilleur moyen pour faire répandre le bruit. Et j'étais vraiment interpellé par la réaction de Néhémie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a ce mensonge, cette accusation qui se répand partout, sans filtre. Enfin, en fait, on dirait que c'est Facebook, en fait, ou bien Internet, hein, sans filtre. Fake news, comme on dit. Ça se répand. Et comment elle a réagi, Néhémie? C'est intéressant de réaliser ça et j'aimerais le dire tout à l'heure. Mais une troisième stratégie utilisée par l'ennemi, c'est le faux prophétisme. On a dit à Néhémie, écoute, il y a un projet contre toi, viens maintenant avec moi, on va aller dans le temple, on va se cacher parce qu'ils veulent venir te tuer. Et là, je dirais, il y a un autre piège qui peut aussi toucher les chrétiens, c'est la séduction. C'est la séduction. On fait miroiter un message de salut, c'est pour te sauver que je vais te cacher. Mais en fait, l'objectif, c'est pour discréditer spirituellement Néhémie. Et il y a une séduction qui se fait ici. J'ouvre peut-être ici une parenthèse. Je suis en train de donner un cours sur Apocalypse dans une autre école, pas la HET Pro. Et je suis interpellé par la réalité de l'Église, les Églises qui étaient destinataires en fait, de ces prophéties reçues, et les Églises de tous les siècles, de tous les temps aussi. Et il y a le côté, le contexte de la persécution de l'Église, qui était vraiment importante, qui est prise en compte au travers de ces prophéties. Dans ce sens, les prophéties dans Apocalypse, c'est en fait cela pour encourager les Églises, pour qu'il y ait une espérance aussi dans l'Église, dans les Églises. Mais il y a aussi un autre élément qui est utilisé par l'ennemi, c'est la séduction. Il y a un faux prophète, c'est la séduction. On utilise des choses apparemment spirituelles, mais en fait, qui nous vide de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais tout le reste, on le garde. Et on peut même mettre autre personne ou autre chose derrière. Il y a une séduction parfois, cette séduction, c'est une demi-vérité. Parce que si c'est c'est un mensonge à 100%, mais on reconnaît. Mais là, il y a une demi-vérité. Il y a un projet positif, mais en fait, derrière, c'est négatif. Donc, il y a cette séduction-là qui peut aussi, que l'ennemi peut aussi utiliser pour attaquer les chrétiens, pour empêcher les chrétiens de grandir spirituellement ou pour empêcher les chrétiens d'avancer dans cette action pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais comment l'ennemi réagit? J'aimerais lire au verset 8, chapitre 6. Il y a l'accusation qui a été donnée contre Néhémie. Et au verset 8, c'est dit, « Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. » C'est-à-dire que l'ennemi utilise des mensonges pour nous attaquer. Et Néhémie n'accorde pas de crédit aux mensonges. Il peut avoir des attaques avec des mensonges. Tu es nul aux yeux de Dieu. Tu ne peux rien faire pour le royaume de Dieu. Tu ne peux pas grandir avec tout ce que tu vis en ce moment. C'est faux. Des mensonges utilisés par l'ennemi qui peuvent prendre racine en nous si on accorde un crédit à cela. Et si on commence à donner du crédit à cela, on commence peut-être à se justifier et ça commence à bloquer notre vie spirituelle. Mais en fait, Néhémie dit, non, ce genre de choses n'existe pas, je n'y crois pas, je n'accorde pas de crédit. J'accorde mon attention sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu veut faire au travers de moi. Et puis par rapport au faux prophétisme, Néhémie a discerné qu'en fait ça venait pas de Dieu, la prophétie, parce que lui-même il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Et il a discerné le faux prophète ou le faux prophétisme à cause de sa connaissance de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, ça nous évite de tomber dans le piège de l'ennemi. Vous savez, le monde, la société en tout cas occidentale, connaît de moins en moins la Bible. Il y a vraiment un analphabétisme biblique dans ce monde. Et on n'enchaîne plus le catéchisme d'ailleurs à l'école, où on enseigne un peu une religion. Mais on change. Donc, à la fois, nos contemporains, enfin les jeunes surtout, nous connaissent de moins en moins la Bible. Donc là, il y a un terrain aussi. Mais en même temps, cette méconnaissance de la Bible peut être un terrain favorable pour la diffusion aussi de ce que l'ennemi veut faire diffuser. Mais l'analphabétisme biblique touche aussi les églises. Et qu'on soit aussi attentif pour que chacun d'entre nous connaisse la parole de Dieu et utilise cette parole de Dieu, connaisse cette épée. Hein, c'est comme une arme utilisée par Néhémie et tout le peuple contre les ennemis qui voulaient les attaquer et puis en même temps pour construire la muraille. L'arme, c'est l'épée, c'est la seule arme offensive. Quand on voit dans Éphésiens 6, c'est la seule arme offensive. Le reste, c'est vraiment une arme défensive. C'est par la parole de Dieu qu'on peut agir, qu'on peut déjouer le piège de l'ennemi, qu'on peut croire, vraiment croire à la vérité et non pas au mensonge. Et c'est par la parole de Dieu qu'on peut avancer pour que le royaume de Dieu aussi avance. Dernier obstacle, et je vais passer rapidement par rapport à ce dernier obstacle, en fait c'est obstacle à l'intérieur du peuple. Avant c'était obstacle depuis l'extérieur, là c'est l'obstacle à l'intérieur du peuple. Et en fait, avec cet obstacle, il y a des catégories de personnes lésées. Des pauvres, affamés, des propriétaires qui ont mis en gage leurs biens pour avoir du blé. Il y a des personnes réduites à l'esclavage pour payer les impôts. Mais le problème, en fait, c'est que les exploiteurs, ce sont des gens du peuple eux-mêmes. C'est la classe dirigeante juive. Et Néhémie a aussi réagi contre cet obstacle parce que ce qui était grave, c'est que il y a une violation de l'alliance avec Dieu. En exploitant les compatriotes, le peuple ou cette classe dirigeante a violé l'alliance que le peuple d'Israël a fait avec Dieu. Et Néhémie a réagi pour que cette alliance soit faite et renouvelée. Et pour passer rapidement sur ce point, l'Église est le lieu où on vit dans le royaume de Dieu, dans le sens que Jésus règne au milieu de l'Église. Et l'Église, c'est le lieu où on vit les valeurs du royaume de Dieu. L'Église, c'est le lieu où on manifeste les valeurs du royaume de Dieu. L'amour, le pardon, une relation saine, une relation juste, une relation réglée, toutes sortes de... L'Église, en fait, a cette responsabilité de représenter devant le monde qui croit, devant ce royaume de l'ennemi, des ténèbres qui est là à côté, ou qui touche aussi les chrétiens. En fait, l'Église est là pour montrer, voilà ce qui va se passer quand Dieu va établir son royaume. Nous voulons rendre visibles ces valeurs du royaume de Dieu. Donc, est-ce que quand on voit l'Église, est-ce qu'on voit ces valeurs du royaume de Dieu au travers de notre vie, au travers de notre manière d'être ensemble? Est-ce qu'on connaît seulement la nuque de nos frères et sœurs, ou bien est-ce qu'on connaît vraiment la personne qui est là devant nous? Est-ce qu'on vit des choses avec eux? Est-ce qu'on manifeste ensemble cette réalité du royaume de Dieu, cette réalité de l'amour? C'est comme cela qu'on peut aussi construire l'Église. C'est comme cela qu'on peut aussi construire... c'est par cela aussi qu'on peut construire le bâtiment. Et pour clore, l'Église, c'est vraiment le lieu, je dirais, c'est l'endroit le plus sécurisé au monde. Pas c'est l'endroit où on peut pratiquer les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est aussi le lieu de l'espérance. Malgré les nombreux obstacles, la muraille a pu être reconstruite en un temps record, parce qu'ils ont pu faire reconstruire la muraille en 52 jours, avec l'aide de Dieu. C'est pour moi une occasion de dire que, agissons ensemble pour que le bâtiment soit reconstruit, mais l'objectif ce n'est pas le bâtiment, c'est un moyen. Pour que l'Évangile rayonne dans cette région, pour que les gens voient la réalité du royaume de Dieu ici à Cossonay et dans cette région, et pour que les gens soient attirés, pour que les gens soient touchés. Nous sommes ce messager pour dire dans ce monde qui perd de repères, dans ce monde on parle maintenant aussi de ce qu'on appelle, comment on dit maintenant, c'est, le mot m'échappe, collapsologie. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On parle de la fin du monde. Ça, ce sont les non-chrétiens qui parlent de ça. Hein. Le monde va dans une direction vers la fin du monde. L'écologie en parle, et il y a aussi tout un mouvement en fait qui se prépare à cette fin du monde, parce qu'ils disent il y aura un autre monde qui va venir, donc on se prépare à cela. Donc certains se préparent, par exemple, on se prépare des moyens de survie, ils font des camps un peu partout. Ça c'est moyen pour se préparer à la fin du monde. Donc même les non-chrétiens pensent à la fin du monde, mais la fin du monde pour eux c'est quoi? C'est la catastrophe. Mais la fin du monde, ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas la catastrophe. La fin du monde, c'est la venue du royaume de Dieu. Le royaume du Christ dans l'amour et dans la justice. Et nous sommes témoins de ça. Et nous pouvons montrer cette espérance dans ce monde qui n'a pas d'espoir. Amen.